je ne vais pas qualifier ça de recul. En fait, nous sommes en train de voir une épidémie qui s'ancre dans les zones endémiques, tout particulièrement en Afrique sud-saharienne. Ce que nous voyons avec la mortalité, c'est la démonstration que le traitement est en train de marcher. Mais les cas recensés ont continué à augmenter. Nous parlons d'une progression de 5 millions entre 2015 et 2016.
Alors pourquoi ?
On a une meilleure surveillance. Ça, c'est un facteur. On compte beaucoup mieux les cas déclarés. La plupart des pays sont maintenant dotés d'outils statistiques pour pouvoir mieux recenser.
Ce sont des chiffres qui ne reflètent pas forcément un recul, mais juste qu'on compte plus de cas.
Oui, on compte plus de cas, c'est vrai, mais en même temps aussi, il faut reconnaître qu'il y a une sous-estimation de l'étendue du problème. Parce que on reconnaît qu'il y a eu beaucoup de mouvements de population dans les pays en guerre au Sud-Soudan, en RCA. Donc, dans ces conditions, on ne peut pas fiablement compter tous les cas de paludisme. Donc c'est une sous-estimation, mais là où je me réjouis, c'est que les cas de mortalité ont baissé, les cas de décès ont baissé, et ça veut dire que il faudra, avec la détection, accroître les mesures de détection et le traitement pour pouvoir limité. Et puis je ne sais pas si on va tout à l'heure parler des certaines stratégies à adopter, notamment par exemple doter toutes les populations, tous les individus vulnérables de moustiquaires imprégnés.
Oui, oui, oui.
Assainir l'environnement, pulvériser les maisons avec les insecticides. Je pense que le concours de toutes ces interventions-là diminue la virulence des infections.
Docteur Aliou Ayaba, est-ce que vous êtes d'accord, en dépit de ce chiffre un peu alarmant, on est quand même dans le progrès ?
Je suis d'accord en partie avec mon confrère. Nous avons un problème de données dans la plupart de ces pays endémiques palustres, et il faut peut-être regarder les tendances plus que les variations de chiffres d'une année à une autre. Donc, il pourrait s'agir de l'effet d'une meilleure collecte des données qui montre vraiment ces 5 millions de cas de plus seulement. La grande différence ici, c'est que c'est la première fois en 10 ans que nous voyons cette augmentation de cas. Donc, certainement que la lutte ne recule pas, mais elle a commencé à connaître une stagnation. C'est ce que je peux dire par rapport à ces chiffres. Mais quand même, nous restons optimistes parce qu'il y a d'autres données, en plus des nombres de cas et de décès. Il y a quand même le nombre de pays qui ont rapporté moins de 10 000 cas de paludisme. Ce nombre de pays a augmenté de 31 à 44 quand même. Donc il y a beaucoup plus de pays qui rapportent moins de 10 000 cas de paludisme. Et on peut toujours rester dans l'optimisme et regarder les tendances. au fil des années avant de tirer une conclusion.
Une tendance qui va donc vers le progrès. Donc près de la moitié de la population mondiale est exposée au risque de contracter le paludisme. On retrouve le paludisme dans 91 pays en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Amérique latine notamment. Toutefois, la grande majorité des cas, soit 91%, surviennent en Afrique subsaharienne. Docteur Nkosi Dambita, pourquoi une telle disproportion?
Ben, la disproportion s'explique. Vous voyez, en Afrique, les systèmes de santé sont fragiles, sont faibles. On peut noter pour un pays, l'un des pays les plus riches d'Afrique, le Nigeria, les dépenses par capita dans le domaine de la santé se chiffre par an autour de $120, hein, $127 pour être exact. Ça, c'est le Nigeria, un pays avec des moyens. On peut citer la République démocratique du Congo, où le budget de $32 par habitant. Dans cette fragilité, il est difficile de pouvoir lancer une campagne d'élimination ou d'éradication efficace. Vous voyez, les pays comme le Maroc est en voie d'élimination. Et ça, on s'en réjouit, parce que ils ont les moyens, ils ont pu travailler avec ça. C'est un peu plus difficile dans les autres pays, et c'est pour cela que la charge continue d'augmenter, alors que il y a un recul dans les pays d'Asie. Et quand je me dis que même aux États-Unis, à un moment il y avait le paludisme ici, il a été éliminé.
C'est possible.
C'est possible.
Alors, docteur Aliou Ayaba, là on vient d'évoquer le manque de moyens. Est-ce que vous voyez d'autres raisons qui pourraient expliquer ces chiffres disproportionnés en Afrique?
D'abord, l'écologie du vecteur et la situation de l'Afrique sur le globe, ça met déjà le continent en situation de désavantage, parce que l'anophèle, le moustique, ne survit pas partout. Donc il y a ça. Mais fondamentalement, c'est la réponse que les pays apportent à la lutte contre le paludisme. C'est disproportionné parce que, bon, en Afrique, c'est surtout le Nigeria et la République démocratique du Congo qui ont la lourde charge de cette endémie, mais la réponse qui est apportée n'est pas aussi proportionnelle. Mon confrère a parlé du financement, c'est fondamental. Le Nigeria, par exemple, a reçu des ressources substantielles du Fonds mondial, mais ils ont été incapables de contribuer les 15% du compte partie gouvernemental, et ça a contribué même à la diminution de cet apport-là. Donc, la plupart de nos pays, ils ont même fixé 15% de contribution aux dépenses de la santé à Abuja il y a des années, mais très peu de pays ont atteint ces niveaux d'investissement. Donc, fondamentalement, il y a la responsabilisation des États, la priorisation des secteurs sociaux par rapport à d'autres secteurs. Il y a tout ça qui font que la charge, ça reste du côté de l'Afrique.
Alors, c'est aussi en Afrique qu'on enregistre le plus de décès. Est-ce que c'est lié au fait qu'il y a plus de cas, tout simplement, ou est-ce que c'est plus difficile de survivre en Afrique quand on a le paludisme?
Je pense que mon collègue qui est sur le terrain là-bas pourra mieux saisir les problématiques liées à cela. Mais je pense que la prise en charge n'est pas gérée comme il se devrait. Si vous regardez ces cas de décès, la plupart c'est dans les enfants, chez les enfants de moins de 5 ans. Mm-hmm. Okay. Il y a certaines pratiques dangereuses qui continuent en Afrique. où les structures sanitaires reçoivent ces malades-là quand c'est déjà trop tard. Et il faut aussi relever le fait que il n'y a pas que le paludisme, il y a d'autres priorités dans ces pays. Alors, le fait qu'on ne puisse pas adhérer à un programme vraiment rigide de prise en charge où tout le monde ait la responsabilité individuelle de pouvoir reconnaître, d'avoir accès au point de traitement, de diagnostic et traitement, la responsabilité pour pouvoir assainir l'environnement. Oui. Et la contribution du gouvernement. Mm-hmm. Quand les gouvernements, mon collègue disait tout à l'heure que n'arrive pas à contribuer les 15%, seulement 15% oui. qu'il leur est demandé, mais il y a un problème.
Il y a un problème, effectivement. Alors je vous propose qu'on marque une courte pause. Washington Forum revient tout de suite. Avec vous, Morgane Guiriec. Gros plan sur le paludisme dans cette émission. Voyons comment la population de Kinshasa perçoit cette lutte contre le paludisme. Propos recueillis par Ezekias Lopo et Francis Kabuya.
Il y a plusieurs façons de lutter contre la malaria que la population connaît aussi, qu'on avait énuméré selon les exemples de problèmes sanitaires ou quoi. Mais ce qui reste en fait, c'est l'applicabilité de cette lutte-là, que la population et l'État doivent s'y mettre pour aujourd'hui vaincre la malaria. Parce que l'État fournit beaucoup d'efforts et on ne doit pas négliger ces efforts-là en donnant des médicaments gratuitement.
La liste en RDC n'est pas efficace depuis que le gouvernement n'est pas vraiment engagé, ainsi que la population, le manque de volonté de la population.
Si on pouvait parler de la lutte ici en RDC, on devait d'abord commencer par la base même du paludisme. Parce qu'on sait bien que le paludisme, c'est une maladie qui est provoquée beaucoup plus par la saleté. Donc la saleté produit les moustiques et ainsi de suite.
Je m'abstiendrai de dire qu'elle est efficace ou pas, mais je dirais quand même que la lutte est. On lutte quand même pour la disparition de cette maladie. Mais l'efficacité, quant à l'efficacité et au résultat, on ne pourra pas dire que la lutte est quand même efficace. Mais avec les années, on pense et on veut vraiment, on croit qu'avec les années, cette lutte sera vraiment efficace.
La lutte contre la malaria en RDC, je trouve cette lutte moins efficace. Parce qu'il fallait dire qu'il est efficace, je me suis trompé, parce que dans notre pays, dans plusieurs cas, ce sont les gens qui souffrent de la malaria. Dès que tu pars dans des hôpitaux.
Alors, retrouvons nos invités pour en parler. De Conakry en Guinée, docteur Aliou Ayaba. Et à mes côtés en studio, docteur Nkosi Dambaté de l'université Johns Hopkins. Je crois que j'ai... Voilà. Excusez-moi. Donc, pour résumer ce qu'on vient de voir dans le micro-trottoir, les efforts pour endiguer la maladie sont réels, mais les résultats ne sont pas toujours évidents. Docteur Aliou Ayaba, les politiques mises en place sont-elles efficaces d'après vous ?
Lorsqu'il y a une bonne gouvernance au niveau d'un pays, c'est-à-dire il y a des conditions, il faut que, qu'il y a une volonté politique au niveau d'un pays. Dans les pays où il y a la volonté politique, je crois que ça marche. Il y a un plan, les acteurs sont là et le pays et les bailleurs financent ce plan. Donc la plupart des pays ont vraiment les plans qu'il faut, les politiques qu'il faut, et je crois que ça marche. Ça marche parce que l'utilisation, la disponibilité et l'utilisation des moustiquaires, par exemple. On veut l'objectif de 80% d'utilisation régulière, et les données montrent que les États où il y a du sérieux, où il y a une bonne gouvernance, ont pu quand même approcher ce chiffre-là. Donc, en matière de prévention, ça marche. Les politiques de prise en charge, c'est là qu'il y a le problème. Et vraiment, c'est multifactoriel. D'abord, il y a la faiblesse des systèmes de santé. Alors, les médicaments contre le paludisme sont pour la plupart gratuits et disponibles au niveau des formations sanitaires. Mais il y a une bonne partie de ces populations, parfois plus de 40% de ces populations-là vivent à plus de 5 km, parfois plus de 15 km de la première formation sanitaire. Alors, quand en cas de fièvre, ce n'est pas toujours facile que l'accès géographique facilite. Donc, les faiblesses des systèmes de santé font que la population n'a pas accès à ces soins. L'autre problème, c'est que le paludisme aussi est resté longtemps. Les gens se sont habitués. Une fièvre, bon, on ne sent pas souvent le besoin d'aller demander les soins. On préfère aller au kiosque à côté pour faire le traitement. Donc, en matière de prévention, vraiment, les politiques ont marché dans la plupart des pays. L'utilisation des moustiquaires imprégnés, c'est un succès, mais la prise en charge des cas
reste
à désirer à cause de l'accès. Alors, aux services qui sont quand même gratuits.
Alors, excusez-moi, je vous coupe. J'ai une question pour Dr Nkosi Dambita. Un des problèmes liés au traitement, c'est qu'on observe une résistance. Est-ce que le continent africain est concerné par ce phénomène et qu'est-ce que ça pourrait impliquer?
Ah oui, c'est ça qui me donne des cauchemars.
Oui.
Parce que le traitement que les ACT qu'on utilise en ce moment sont efficaces. Et si on parle de résistance, de début de résistance, ça fait peur parce qu'après les ACT, il n'y a rien d'autre. Les vaccins, ça c'est encore un autre sujet.
On va en parler dans pas longtemps. Okay. Enfin, la résistance, ça veut dire que les médicaments, concrètement, n'auront plus d'effet sur le parasite.
Sur le parasite, absolument.
Oui, c'est très inquiétant. Donc, j'aimerais qu'on prenne quand même un moment pour regarder ce que nos Facebookers ont à dire sur le sujet. On a Alphonse Mbouaki, qui est à Kinshasa en RDC, et il dit « La gratuité des soins contre le paludisme ne peut-elle pas être rendue possible et facile ? S'il y a volonté internationale, c'est faisable, au lieu de gaspiller des milliards dans des guerres, bien que la paix et la sécurité restent utiles. » Archiduc Théodore de N'Djamena au Tchad, « Le paludisme continue à faire des ravages à cause du non-respect des règles d'hygiène par les populations et le détournement des fonds investis dans les projets de lutte contre la maladie. » Et puis, Kevin Kainda de Lubumbashi en RDC, « Dommage que les populations utilisent les moustiquaires imprégnés comme outils de pêche, rideaux ou pour diviser leurs champs. Alors à quoi bon lutter contre le paludisme » demande-t-il. Voilà des commentaires qui mettent les populations face à leurs responsabilités. Docteur Nkosi Dambita, est-ce que vous partagez cet avis?
Absolument. Mm-hmm. J'ai vu ça sur le terrain. Les gens, les populations, se sont rendus compte que ces moustiquaires-là servent de filet efficace pour quelqu'un qui est affamé. Attraper un poisson devient beaucoup plus important. que de se protéger contre...
Donc ici encore, c'est la pauvreté, tantôt les manques de moyens, tantôt la pauvreté de la population.
La question qui est très importante et qui a trait à la gouvernance, le détournement des fonds, ça c'est un problème sérieux. Il faudrait que les gens en parlent, il faudrait que les gens puissent trouver une solution à cela.
Alors, un autre problème lié à la prévention, c'est que les moustiques peuvent développer une résistance aux insecticides. Est-ce que c'est le cas aussi en Afrique?
Oui, c'est le cas. C'est beaucoup plus... il est beaucoup plus facile de neutraliser les moustiques. Mais comme les États-Unis en ont fait l'expérience dans les années 50 avec la DDT, c'est que les effets néfastes
sur le reste de l'environnement,
perdurent. Et il faudra éviter. Donc il faut trouver des produits qui peuvent aussi entrer dans le système, l'écosystème, quoi.
Un
bon équilibre.
Oui. Alors, concernant la recherche toujours, on a le Mosquirix TM. C'est un vaccin injectable qui est justement en cours d'évaluation en Afrique subsaharienne. Où en sont ces tests et est-ce qu'il y a de l'espoir?
Absolument. Ça, ça m'excite. Vous savez, l'année dernière, à Paris d'époque, Johns Hopkins a réuni tous les grands chercheurs pour ceux qui travaillent dans le domaine de la vaccination. Et il y a plusieurs, trois catégories de vaccins sur lesquels les gens sont en train de travailler. Mais le plus avancé, c'est celui que vous avez, Mosquirix, là, que vous venez de citer, RTSS. Et ça, pendant plusieurs années, des enfants ont été vaccinés dans plusieurs pays d'Afrique. Les résultats sont faramineux, avec une couverture de pratiquement 82%. OK? Et là, maintenant, on va passer à l'étape, les essais cliniques sont finis. Il faut maintenant essayer ça sur le terrain. Et il y a trois pays africains qui ont été sélectionnés, le Kenya, le Ghana et le Malawi. Et je ne sais pas, ça devrait commencer cette année, en 2018. On attend les résultats.
Et à partir de là, combien de temps est-ce qu'on devra attendre pour vraiment que les gens puissent avoir accès à ce vaccin?
Avec les essais cliniques, on ne sait jamais. Peut-être qu'une toxicité qu'on n'avait pas pu détecter pendant la longue étape qui a abouti à ce stade-là, peut-être qu'ils vont se révéler. Et si c'est le cas, tout repart à zéro.
Aliou Ayaba, est-ce que pour vous aussi, c'est source d'espoir? C'est peut-être la fin annoncée de cette maladie?
Non, malheureusement, ça va prendre du temps. Le Mosquirix, c'est un vaccin qui a prouvé donner une immunité vraiment partielle. Et donc, ce n'est pas prévu qu'on l'utilise sans les autres mesures de prévention et de prise en charge qui sont sur place. Donc, ça viendra en complément aux autres mesures. Et donc, il n'y a pas un vaccin maintenant.
Voilà, ce sont les mots de la fin. Merci beaucoup, docteur Aliou Ayaba, docteur Nkosi Dambita. Merci beaucoup d'avoir participé. Et merci à tous ceux qui ont suivi l'émission et qui ont travaillé dessus. À très bientôt.